Chapitre 5. Réflexion sur quelques écrivains qui ont attiré sur les femmes la pitié méprisante des hommes. Il reste maintenant à examiner les opinions spécieusement avancées sur le caractère et l'éducation des femmes dans quelques ouvrages modernes, opinions qui ont dirigé la plupart des observations précitées qu'on a faites sur le sexe. Section première. Je vais commencer par Rousseau et je donnerai l'esquisse du caractère des femmes dans ses propres termes, en y mêlant quelques réflexions. Mon commentaire, il est vrai, résultera d'un petit nombre de principes simples et on pourrait le tirer de ce que j'ai déjà dit. Mais ce système a été bâti avec tant d'art que je crois devoir l'attaquer plus en détail et en faire moi-même l'application. Sophie, dit Rousseau, doit être femme comme Émile est homme. Et pour la rendre telle, il faut examiner le caractère que la nature a donné à son sexe. Il essaye ensuite de prouver qu'il faut que la femme soit faible et passive parce qu'elle a moins besoin de force corporelle que l'homme. Il en infère qu'elle a été formée pour lui plaire et se soumettre à lui, et qu'il est de son devoir de se rendre agréable à son maître, puisque c'est là le grand but de son existence. Cependant, pour conserver une fausse dignité au plaisir de l'amour, il veut que l'homme ne déploie pas sa force, mais dépende de la volonté de la femme quand il recherche ses plaisirs auprès d'elle. Voici donc une troisième conséquence de la constitution des sexes. C'est que le plus fort soit le maître en apparence et dépend en effet du plus faible. Et cela, non par un frivole usage de galanterie, ni par une orgueilleuse générosité de protecteur, mais par une invariable loi de la nature qui, donnant à la femme plus de facilité d'exciter les désirs qu'à l'homme de les satisfaire, fait dépendre celui-ci, malgré qu'il en ait, du bon plaisir de l'autre et le contraint de chercher à son tour à lui plaire pour obtenir qu'elle consente à le laisser être le plus fort. Alors, ce qu'il y a de plus doux pour l'homme dans sa victoire est de douter si c'est la faiblesse qui cède à la force ou si c'est la volonté qui se rend. Et la ruse ordinaire de la femme est de laisser toujours ce doute entre elle et lui. L'esprit des femmes répond en ceci parfaitement à leur constitution. Loin de rougir de leur faiblesse, elles en font gloire. Leurs tendres muscles sont sans résistance. Elles affectent de ne pouvoir soulever les plus légers fardeaux. Elles auraient honte d'être fortes. Pourquoi cela? Ce n'est pas seulement pour paraître délicate, c'est par une précaution plus adroite. Elles se ménagent de loin des excuses et le droit d'être faible au besoin. J'ai cité ce passage dans toute son étendue, de peur que mes lecteurs ne me soupçonnassent d'avoir morcelé les raisons de Rousseau pour fortifier les miennes. D'ailleurs, je crois avoir suffisamment démontré que ces principes fondamentaux, admis dans l'éducation des femmes, conduiraient à un système de ruse et de malhonnêteté. En effet, dans l'hypothèse que la femme n'aurait été formée que pour plaire et se soumettre à l'homme, la conclusion est juste. Elle doit immoler toute autre considération à la nécessité de se rendre agréable à ce maître. Il faut alors que ce désir grossier de sa propre conservation soit le grand mobile de toutes ses actions, puisqu'il est prouvé que le rapport où elle se trouve est le lit de fer de Procuste, auquel il faut que son caractère s'adapte, soit en s'étendant, soit en se resserrant, sans égard pour aucune des différences physiques ou morales. Mais si l'on peut démontrer, comme je le crois, que les fins, même de cette vie, considérées dans l'ensemble, sont entièrement subverties par les règles pratiques établies sur une base ignoble, on me permettra de douter que la femme ait été créée pour l'homme. Dût-on crier contre moi à l'impiété et même à l'athéisme, je déclarerais dans la simplicité de mon cœur que quand un ange descendrait du ciel pour m'assurer que la belle mais poétique cosmogonie de Moïse et son histoire de la chute de l'homme sont vraies à la lettre, je ne pourrais croire ce que ma raison me montre déroger au caractère de l'être suprême. Et n'ayant point la crainte du diable devant les yeux, comme on prétend qu'il faut y avoir toujours celle de Dieu, j'ose appeler cette incrédulité, dont on me fait un crime, une suggestion de la raison, plutôt que de reporter le poids de ma faiblesse sur les larges épaules du premier séducteur de mon sexe fragile, dont Milton ne sait plus à nous tracer une peinture gigantesque. Rousseau continue. Dès qu'une fois il est démontré que l'homme et la femme ne sont ni ne doivent être constitués d'eux-mêmes, de caractère ni de tempérament, il s'ensuit qu'ils ne doivent pas avoir la même éducation. En suivant les directions de la nature, ils doivent agir de concert, mais ils ne doivent pas faire les mêmes choses. La fin des travaux est commune, mais les travaux sont différents, et par conséquent les goûts qui les dirigent. Soit que je considère la destination particulière du sexe, soit que j'observe ses penchants, soit que je compte ses devoirs, tout concourt également à m'indiquer la forme d'éducation qui lui convient. La femme et l'homme sont faits l'un pour l'autre, mais leur mutuelle dépendance n'est pas égale. Les hommes dépendent des femmes par leurs désirs. Les femmes dépendent des hommes, et par leurs désirs et par leurs besoins. Nous subsisterions plutôt sans elles qu'elles sans nous. Ainsi, toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes. Leur plaire, leur être utile, se faire aimer et honorer d'eux, les élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce, voilà les devoirs des femmes dans tous les temps, et ce qu'on doit leur apprendre dès leur enfance. Tant qu'on ne remontera pas à ce principe, on s'écartera du but, et tous les préceptes qu'on leur donnera ne serviront de rien pour leur bonheur ni pour le nôtre. Les petites filles, presque en naissant, aiment la parure. Non contentes d'être jolies, elles veulent qu'on les trouve telles. On voit dans leurs petits airs que ce soin les occupe déjà, et à peine sont-elles en état d'entendre ce qu'on leur dit, qu'on les gouverne en leur parlant de ce qu'on pensera d'elles. Il s'en faut bien que le même motif, proposé très indirectement aux petits garçons, n'ait sur eux le même empire. Pourvu qu'ils soient indépendants et qu'ils aient du plaisir, ils se soucient fort peu de ce qu'on pourra penser d'eux. Ce n'est qu'à force de temps et de peine qu'on les assujettit à la même loi. De quelque part que vienne aux filles cette première leçon, elle est très bonne. Puisque le corps naît, pour ainsi dire, avant l'âme, la première culture doit être celle du corps. Cet ordre est commun aux deux sexes. Mais l'objet de cette culture est différent. Dans l'un, cet objet est le développement des forces, dans l'autre, il est celui des agréments. Non que ces qualités doivent être exclusives dans chaque sexe. L'ordre seulement est renversé. Il faut assez de force aux femmes pour faire tout ce qu'elles font avec grâce, il faut assez d'adresse aux hommes pour faire tout ce qu'ils font avec facilité. Les enfants des deux sexes ont beaucoup d'amusements communs, et cela doit être. N'en ont-ils pas de même étant grands? Ils ont aussi des goûts propres qui les distinguent. Les garçons cherchent le mouvement et le bruit, des tambours, des sabots, de petits carrosses. Les filles aiment mieux ce qui donne dans la vue et sert à l'ornement. Des miroirs, des bijoux, des chiffons, surtout des poupées. La poupée est l'amusement spécial de ce sexe. Voilà très évidemment son goût déterminé sur sa destination. Le physique de l'art de plaire est dans la parure. C'est tout ce que des enfants peuvent cultiver de cet art. Voilà donc un premier goût bien décidé. Vous n'avez qu'à le suivre et le régler. Il est sûr que la petite voudrait de tout son cœur savoir orner sa poupée, faire ses nœuds de manche et son fichu, son falbala, sa dentelle. En tout cela, on la fait dépendre si durement du bon plaisir d'autrui qu'il lui serait plus commode de tout devoir à son industrie. Ainsi vient la raison des premières leçons qu'on lui donne. Ce ne sont pas des tâches qu'on lui prescrit, ce sont des bontés qu'on a pour elle. Et en effet, presque toutes les petites filles apprennent avec répugnance à lire et à écrire. Mais quant à tenir l'aiguille, c'est ce qu'elles apprennent toujours volontiers. Elles s'imaginent d'avance être grandes et songent avec plaisir que ces talents pourront un jour leur servir à se parer. Certainement, on ne verra là qu'une éducation de corps. Mais Rousseau n'est pas le seul qui ait dit, indirectement, que le mérite d'une jeune femme et son attitude à plaire consiste uniquement dans sa personne, sans y faire entrer pour rien l'esprit, excepté néanmoins les esprits animaux. Pour la rendre faible ou belle, ce qui est la même chose au dire de certaines gens, on néglige son intelligence, et les petites filles, forcées de se tenir tranquilles, jouent avec des poupées ou prêtent l'oreille à de folles conversations. On vient, après cela, nous donner l'effet de l'habitude comme l'indication certaine de la nature. Je sais que Rousseau était d'avis d'employer les premières années de la jeunesse à former le corps, quoiqu'il s'écarte un peu de ce plan en élevant son Émile. Cependant, il y a une grande différence entre donner au corps une force dont celle de l'âme dépend en grande partie, ou lui donner seulement de la souplesse et de la grâce. Il faut remarquer que ces observations de Rousseau ont été faites dans un pays où l'on n'avait raffiné sur l'art de plaire que pour dépouiller le vice de sa grossièreté choquante. Il n'a pas remonté jusqu'à la nature, où ses goûts décidés ont troublé les opérations de son entendement. Autrement, il n'aurait pas tiré les conséquences si crues. En France, on élevait les petits garçons et les petites filles, particulièrement ces dernières, que pour plaire. On leur recommandait le soin de leur personne et de régler leur contenance et leur maintien extérieur. Quant aux âmes, elles étaient corrompues de très bonne heure par les avis mondains et pieux qu'on leur donnait pour les tenir en garde contre l'indécence. Je parle des temps passés. Les confessions même que de petites filles, encore purement enfants, étaient obligées de faire, et les questions, au moins indiscrètes, que leur adressait l'homme de Dieu, suffisaient, comme j'en suis sûr, d'après de bonnes autorités, pour leur imprimer un caractère sexuel. En un mot, l'éducation de la société n'était qu'une école de coquetterie et d'artifice. À l'âge de 10 ou 11 ans, quelquefois même beaucoup plus tôt, les petites filles commençaient à se montrer coquettes et à babiller, sans qu'on les en blâmât, de mariage, d'établissement dans le monde. Enfin, on en faisait des femmes presque dès le berceau, et elles écoutaient des compliments au lieu de leçons. Ces moyens corrupteurs affaiblissant l'âme, on supposait que la nature avait agi en marâtre quand elle avait réalisé cette arrière-pensée de la création. N'accordant point d'intelligence aux femmes, il était tout simple de les assujettir à une autorité indépendante de la raison, et Rousseau, pour les préparer à ce jour, leur donne l'avis suivant. Les filles doivent être vigilantes et laborieuses. Ce n'est pas tout, elles doivent être gênées de bonheur. Ce malheur, si c'en est un pour elles, est inséparable de leur sexe, et jamais elles ne s'en délivrent que pour en souffrir de bien plus cruels. Elles seront toute leur vie asservies à la gêne la plus continuelle et la plus sévère, qui est celle des bienséances. Il faut les exercer d'abord à la contrainte, afin qu'elles ne leur coûtent jamais rien, à dompter leur fantaisie, pour les soumettre aux volontés d'autrui. Si elles voulaient toujours travailler, on devrait quelquefois les forcer à ne rien faire. La dissipation, la frivolité, l'inconstance sont des défauts qui naissent aisément de leur premier goût corrompu et toujours suivi. Pour prévenir cet abus, apprenez-leur toujours à se vaincre. Dans ces insensés établissements, la vie de l'honnête femme est un combat perpétuel contre elle-même. Il est juste que ce sexe partage la peine des maux qu'il nous a causés. Et comment se fait-il que la vie d'une femme modeste soit un perpétuel combat? Je répondrai que c'est précisément ce système d'éducation qu'il faut en accuser. La modestie, la tempérance et l'abnégation de soi-même sont les produits de la raison. Mais quand la sensibilité est entretenue aux dépens de l'intelligence, les femmes dont on a fait des êtres faibles se trouvent exposées à fléchir sous un joug arbitraire ou à lutter dans de perpétuels combats. Essayez une autre marche. Donnez plus de champ à l'activité de leur âme et soyez sûrs que des passions et des motifs plus nobles régleront leurs goûts et leurs sentiments. L'attachement, les soins, la seule habitude feront aimer la mère de la fille si elle ne fait rien pour s'attirer sa haine. La gêne où elle la tient, bien dirigée, loin d'affaiblir cet attachement, ne fera que l'augmenter, parce que la dépendance étant un état naturel aux femmes, les filles se sentent faites pour obéir. Il y a ici pétition de principe, car non seulement la servitude avilit l'individu, mais même ce funeste effet semble se transmettre à la postérité. Puisque la dépendance des femmes date de si loin, est-il surprenant que quelques-unes se plaisent dans leur chaîne et flattent leur tyran, comme l'épagneul caresse son maître? Ces chiens, observe un naturaliste, avaient autrefois les oreilles dressées, et l'habitude a effacé les traces de la nature, et un signe de crainte est devenu une beauté. Par la même raison, ajoute Rousseau, qu'elles ont ou doivent avoir peu de liberté, elles portent à l'excès celles qu'on leur laisse. Extrêmes en tout, elles se livrent à leur jeu avec plus d'emportement encore que les garçons. La raison en est simple. Les esclaves et la populace se sont toujours portés aux mêmes excès, quand une fois ils ont méconnu le frein de l'autorité. L'arc bandé se redresse avec violence, dès que la main qui l'assujettissait le quitte. Et la sensibilité qu'agitent les circonstances extérieures doit être soumise à l'autorité ou modérée par la raison. Il résulte de cette contrainte habituelle, continue Rousseau, une docilité dont les femmes ont besoin toute leur vie, puisqu'elles ne cessent jamais d'être assujetties, ou à un homme, ou au jugement des hommes, et qu'il ne leur est jamais permis de se mettre au-dessus de ces jugements. La première et la plus importante qualité d'une femme est la douceur, faite pour obéir à un être aussi imparfait que l'homme, souvent si plein de vices et toujours si plein de défauts, elle doit apprendre de bonne heure à souffrir même l'injustice et à supporter les torts d'un mari sans se plaindre. Ce n'est pas pour lui, c'est pour elle qu'elle doit être douce. L'aigreur et l'opiniâtreté des femmes ne font jamais qu'augmenter leurs maux et les mauvais procédés des maris. Ils sentent que ce n'est pas avec ces armes-là qu'elles doivent les vaincre. Formées pour vivre avec un être aussi imparfait que l'homme, sans doute elles doivent apprendre, de l'exercice de leurs facultés, la nécessité de la patience. Mais je soutiens que tous les droits sacrés de l'humanité sont violés quand on exige d'elles une obéissance aveugle ou quand on veut que le plus sacré de ces droits n'appartienne exclusivement qu'aux hommes. L'être qui endure patiemment l'injustice et supporte en silence les insultes deviendra bientôt injuste lui-même ou incapable de discerner le bien d'avec le mal. De plus, je nie que ce soit là le vrai moyen de former ou d'améliorer le caractère, car les hommes en doivent à leur sexe un meilleur que celui des femmes, parce qu'ils sont occupés à des recherches qui intéressent la tête aussi bien que le cœur, et que la solidité de la tête tient le cœur dans son état de santé morale. Les gens d'une sensibilité excessive ont rarement de bon caractère. Sa formation est l'ouvrage tranquille de la raison, qui, à mesure que la vie s'avance, combine avec un air heureux des éléments discordants. Je n'ai jamais connu de personne faible ou ignorante qui eût un bon caractère, quoiqu'on abuse souvent de ce nom en le donnant à cette bonne humeur qui tient au tempérament et à cette docilité que la pusillanimité imprime au maintien. Je dis « maintien » car la douceur naturelle ne s'établit jamais dans le cœur que comme un effet de la réflexion. Cette violence qu'on est obligé de se faire tourmente la vie domestique par beaucoup de mauvaise humeur, de l'aveu même des hommes sensibles, qui trouvent une compagne très fatigante dans ces femmes merveilleuses un air si irritable. Chacun, poursuit Rousseau, doit garder le ton de son sexe. Un mari trop doux peut rendre une femme impertinente, mais à moins qu'un homme ne soit un monstre, la douceur d'une femme le ramène et triomphe de lui tôt ou tard. Oui, la douceur de la raison. Mais la crainte abjecte inspire du mépris, et les larmes ne sont éloquentes que lorsqu'elles roulent sur de belles joues. De quels éléments est donc composé ce cœur qui s'attendrit quand on l'insulte, et au lieu de se révolter en éprouvant une injustice, inspire de baiser la verge qui nous frappe? Est-on mal fondé à conclure que la vertu de celle qui peut caresser un homme avec la douceur propre à son sexe, au moment même qu'il la traite en tyran, n'est produite que par des vues étroites et la crainte lâche de l'égoïsme? Non, la nature n'a jamais dicté cette conduite fausse. Et quoi qu'on appelle vertu une prudence de ce genre, il n'en est pas moins vrai que la moralité de nos actions deviendrait vague si l'on supposait qu'on pût l'appuyer quelquefois sur la fausseté. Ne voyons là que des expédients pour se tirer d'embarras, et souvenons-nous que les expédients ne servent que pour le moment. Qu'un mari se garde bien de trop se fier implicitement à cette obéissance servile. Car si sa femme, quoique fâchée, et devant l'être encore, à moins que le mépris n'ait éteint sa colère, peut le caresser avec tant de douceur, elle pourra également le faire au sortir des bras d'un amant. Ce sont là les préludes de l'adultère. Supposons, si l'on veut, que la crainte du monde ou de l'enfer étouffe en elle le désir de plaire à d'autres âmes, quand elle ne peut plus plaire à son mari, quel remplacement, quel dédommagement pourra trouver un être uniquement formé par la nature et l'art pour plaire à l'homme? Qu'est-ce qui la consolera de cette privation? Vers quel nouvel objet tournera-t-elle ses pensées? ou trouver une force d'âme suffisante pour se déterminer à commencer cette recherche quand ses habitudes sont fixées depuis longtemps et que la vanité conduit depuis longtemps cette tête en désordre. Rousseau, que je ne puis m'empêcher de taxer de partialité, recommande la ruse. Il en fait même un système qu'il s'efforce de rendre plausible. Que les filles soient toujours soumises, mais que les mères ne soient pas toujours inexorables. Pour rendre docile une jeune personne, il ne faut pas la rendre malheureuse. Pour la rendre modeste, il ne faut pas l'abrutir. Au contraire, je ne serais pas fâché qu'on lui laissât mettre un peu d'adresse, non pas à éluder la punition dans sa désobéissance, mais à se faire exempter d'obéir. Il n'est pas question de lui rendre sa dépendance pénible, il suffit de la lui faire sentir. La ruse est un talent naturel au sexe, et persuadé que tous les penchants naturels sont bons et droits par eux-mêmes, je suis d'avis qu'on cultive celui-là comme les autres. Il ne s'agit que d'en prévenir l'abus. « Tout ce qui est bien », continue-t-il d'un ton triomphant. « Soit. Cependant, jamais aphorisme a-t-il contenu d'assertion plus paradoxale. C'est une vérité évidente par rapport à Dieu. Il voit l'ensemble à la fois. Et lorsque l'univers était encore dans le chaos, il en avait déjà réglé toutes les proportions. Mais l'homme, aux yeux de qui ne s'offrent que des fragments épars dont il ne peut saisir la liaison, trouve plusieurs choses mal, et il fait partie du système de l'univers. Et par conséquent, il est juste que l'homme s'efforce de changer ce qui lui paraît mal, même en s'humiliant devant la sagesse de son Créateur, et tout en étant pénétré de respect pour l'obscurité qu'il s'efforce d'éclaircir. La conséquence qui suit est juste, supposez que le principe soit bien fondé. Cette adresse particulière donnée au sexe est un dédommagement très équitable de la force qu'il a de moins. Sans quoi la femme ne serait pas la compagne de l'homme, elle serait son esclave. C'est par cette supériorité de talent qu'elle se maintient son égale et qu'elle le gouverne en lui obéissant. La femme a tout contre elle, nos défauts, sa timidité, sa faiblesse, elle n'a pour elle que son art et sa beauté. N'est-il pas juste qu'elle cultive l'un et l'autre? La grandeur d'âme ne saurait jamais exister avec la finesse ou l'art, car je ne veux point éplucher les mots quand leur sens direct annonce le manque de sincérité et la fausseté. Je me contenterai, pour réfuter victorieusement ce principe, d'observer que si une moitié de l'espèce humaine doit être élevée d'après les règles qu'on ne puisse rigoureusement déduire de la vérité, la vertu n'est plus qu'une affaire de convention. Comment Rousseau a-t-il donc osé assurer, après avoir donné ce conseil, que l'objet des deux sexes devait être le même quant au grand but de l'existence, tandis qu'il savait très bien qu'une âme formée pour tendre à cette fin se dilate en raison de ses grandes vues qui font disparaître les petites, ou que, si elle n'a pas la force de s'y élever, elle se rapetisse elle-même. Les âmes ont une force de corps supérieure. Mais convenons que si on ne se méprenait sur les idées de beauté, les femmes acquerraient assez de cette force de corps pour s'assurer les moyens de subsister, et par conséquent l'indépendance, ainsi que pour supporter ces peines et ces fatigues qui servent à tremper l'âme. Qu'on nous laisse donc nous exercer comme les garçons, non seulement durant l'enfance, mais même continuer pendant la jeunesse, ce développement de nos forces, qui nous conduirait à la perfection du corps, afin que nous puissions savoir enfin jusqu'où va la supériorité naturelle de l'âme. Car quelle raison ou quelle vertu peut-on attendre d'un être qu'on a négligé dans le temps de la semence? Aucune, à moins que les vents du ciel n'aient jeté par hasard quelques bons grains dans un sol naturellement fécond. On ne peut jamais se donner de la beauté, et l'on est sitôt en état d'acquérir la coquetterie. Mais on peut déjà chercher à donner un tour agréable à ses gestes, un accent flatteur à sa voix, à composer son maintien, à marcher gracieuse et à choisir partout ses avantages. La voix s'étend, s'affermit et prend du timbre. Les bras se développent, la démarche s'assure et l'on s'aperçoit que, de quelque manière qu'on soit mise, il y a un art de se faire regarder. Dès lors, il ne s'agit plus seulement d'aiguilles et d'industrie, de nouveaux talents se présentent et font déjà sentir leur utilité. Pour moi, je voudrais qu'une jeune Anglaise cultivât avec autant de soin les talents agréables pour plaire au mari qu'elle aura qu'une jeune Albanaise les cultive pour le harem d'Ispahan. Pour rendre les femmes complètement insignifiantes, les femmes ont la langue flexible, elles parlent plutôt plus aisément et plus agréablement que les hommes. On les accuse aussi de parler davantage. Cela doit être, et je changerai volontiers ce reproche en éloge. La bouche et les yeux ont chez elles la même activité, et par la même raison, l'homme dit ce qu'il sait, et la femme dit ce qui plaît. L'un pour parler a besoin de connaissances, et l'autre de goût. L'un doit avoir pour objet principal les choses utiles, et l'autre les agréables. Leurs discours ne doivent avoir de forme commune que celle de la vérité. On ne doit pas contenir le babil des filles comme celui des garçons par cette interrogation dure « à quoi cela est-il bon ?» mais par cette autre, à laquelle il n'est pas plus aisé de répondre « quel effet cela fera-t-il » Dans ce premier âge, où ne pouvant encore discerner le bien et le mal, elles ne sont les juges de personne. Elles doivent s'imposer pour loi de ne jamais rien dire que d'agréable à ceux à qui elles parlent. Et ce qui rend la pratique de cette règle plus difficile est qu'elle reste toujours subordonnée à la première, qui est de ne jamais mentir. Dans le fait, il faudrait beaucoup d'adresse pour gouverner sa langue de cette manière, et cet art n'est que trop bien pratiqué par les hommes et les femmes. Combien peu de gens parlent de l'abondance du cœur ? En vérité, ils sont en si petit nombre que moi, qui aime la simplicité, je donnerais volontiers toute la politesse du monde pour un quart de cette vertu qu'on a sacrifiée à cette qualité équivoque qui, après tout, ne doit être que le poli de la vertu. Mais pour compléter cette esquisse, Rousseau ajoute « On comprend bien, si les enfants mâles sont hors d'état de se former aucune véritable idée de religion, à plus forte raison, la même idée est-elle au-dessus de la conception des filles. » C'est pour cela même que je voudrais en parler à celle-ci de meilleure heure. Car s'il fallait attendre qu'elles fussent en état de discuter méthodiquement ces questions profondes, on courrait risque de ne leur en parler jamais. La raison des femmes est une raison pratique, qui leur fait trouver très habilement les moyens d'arriver à une fin connue, mais qui ne leur fait pas trouver cette fin. La relation sociale des sexes est admirable. De cette société résulte une personne morale, dont la femme est l'œil et l'homme le bras. Mais avec une telle dépendance l'une de l'autre, que c'est de l'homme que la femme apprend ce qu'il faut voir, et de la femme l'homme apprend ce qu'il faut faire. Si la femme pouvait remonter aussi bien que l'homme au principe, et que l'homme eût aussi bien qu'elle l'esprit des détails, toujours indépendants l'un de l'autre, ils vivraient dans une discorde éternelle, et leur société ne pourrait subsister. Mais dans l'harmonie qui règne entre eux, tout tend à la fin commune. On ne sait lequel, mais le plus du sien. Chacun suit l'impulsion de l'autre, chacun obéit, et tous deux sont les maîtres. Par cela même que la conduite de la femme est asservie à l'opinion publique, sa croyance est asservie à l'autorité. Toute fille doit avoir la religion de sa mère, et toute femme celle de son mari. Quand cette religion serait fausse, la docilité qui soumet la mère et la fille à l'ordre de la nature efface auprès de Dieu le péché de l'erreur. Hors d'état d'être juge elles-mêmes, elles doivent recevoir la décision des pères et des maris comme celle de l'Église. Puisque l'autorité doit régler la religion des femmes, il ne s'agit pas tant de leur expliquer les raisons qu'on a de croire que de leur exposer nettement ce qu'on croit. Car la foi qu'on donne à des idées obscures est la première source du fanatisme, et celle qu'on exige pour des choses absurdes mène à la folie ou à l'incrédulité. Je ne sais à quoi nos catéchismes portent le plus, d'être impies ou fanatiques, mais je sais bien qu'ils font nécessairement l'un ou l'autre. Il semble qu'ils doivent se trouver quelque part une autorité absolue, et que personne ne conteste. Mais n'est-ce pas là une appropriation directe et exclusive de la raison ? C'est ainsi que les droits de l'humanité ont été renfermés dans la seule ligne masculine, depuis Adam jusqu'à nous. Rousseau voudrait encore porter plus loin cette aristocratie, car il insinue qu'il ne blâmerait pas ceux dont la vie est de laisser les femmes dans la plus profonde ignorance s'il ne fallait, pour préserver leur honneur et justifier le choix de leur mari aux yeux du monde, leur donner quelques connaissances des hommes et des mœurs produites par les passions humaines. Autrement, elles pourraient propager tranquillement au logis sans être rendues moins voluptueuses et naïves par l'exercice de leur intelligence, excepté la première année de leur mariage qu'il leur permet d'employer à se mettre comme Sophie. Sa parure est très modeste en apparence et très coquette en effet. Elle n'étale point ses charmes, elle les couvre, mais en les couvrant, elle sait les faire imaginer. En la voyant, on dit « voilà une fille modeste et sage ». Mais tant qu'on reste auprès d'elle, les yeux et le cœur errent sur toute sa personne sans qu'on puisse les en détacher, et l'on dirait que tout cet ajustement, si simple, n'est mis en place que pour en être ôté pièce à pièce par l'imagination. Est-ce là de la modestie? Est-ce ainsi qu'un être immortel se prépare à ses hautes destinées? En outre, que penser d'un système d'éducation où l'auteur nous dit de son héroïne « Bien faire ce qu'elle fait n'est que le second de ses soins. Le premier est toujours de le faire proprement. » Et dans le fait, toutes les vertus, toutes les qualités qu'il donne à Sophie ne sont que secondaires. Car quant à la religion, voici le langage qu'il lui fait tenir par des parents dont elle n'apprend jamais qu'à être soumise. « Votre mari vous en instruira quand il sera temps. » Après avoir ainsi enchaîné l'âme d'une femme pour en disposer à son aise, il ne veut pourtant pas qu'elle soit nulle, et par une inconséquence inexplicable, il lui conseille de réfléchir, afin qu'un homme accoutumé à penser ne soit pas réduit à bâiller auprès d'elle quand il est là de lui témoigner son amour par des caresses. En vérité, c'est se moquer. Sur quoi réfléchira celle qui ne doit qu'obéir? Et n'est-ce pas un raffinement de cruauté que d'éclairer son âme uniquement pour lui faire voir l'obscurité, la honte et le malheur de son destin? Voilà pourtant les remarques judicieuses de ce prétendu défenseur de notre sexe. Je laisse au lecteur à décider combien elle s'accorde avec les citations que j'ai déjà été obligé de faire pour présenter mon sujet sous son vrai jour. Les gens qui passent exactement la vie entière à travailler pour vivre n'ont d'autre idée que celle de leur travail ou de leur intérêt, et tout leur esprit semble être au bout de leurs bras. Cette ignorance ne nuit ni à la probité, ni aux mœurs. Souvent même, elle y sert. Souvent, on compose avec ses devoirs à force d'y réfléchir, et l'on finit par mettre un jargon à la place des choses. La conscience est le plus éclairé des philosophes. On n'a pas besoin de savoir les offices de Cicéron pour être un homme de bien. Et la femme du monde, la plus honnête, sait peut-être le moins ce que c'est que l'honnêteté. Mais il n'en est pas moins vrai qu'un esprit cultivé rend seul le commerce agréable, et c'est une triste chose pour un père de famille qui se plaît dans sa maison d'être forcé de s'y renfermer en lui-même et de ne pouvoir s'y faire entendre à personne. D'ailleurs, comment une femme qui n'a nulle habitude de réfléchir élèvera-t-elle ses enfants? Comment discernera-t-elle ce qui leur convient? Comment les disposera-t-elle aux vertus qu'elle ne connaît pas, aux mérites dont elle n'a nulle idée? Elle ne saura que les flatter ou les menacer, les rendre insolents ou craintifs. Elle en fera des singes maniérés ou d'étourdis polissons, jamais de bons esprits ni des enfants aimables. En effet, comment se conduira-t-elle, son mari n'étant pas toujours là pour lui prêter sa raison, puisque ce n'est qu'à eux deux qu'ils forment un seul être moral? Une volonté aveugle, qu'on pourrait appeler des yeux sans main, ne saurait aller loin. Et peut-être sa raison abstraite, c'est-à-dire l'intelligence sublime de son mari, qui devrait concentrer les rayons épars de sa raison pratique, se trouve-t-elle employée à juger de la saveur de quelque vin, de quelque sauce, pour mettre sous un poisson estimé? Ou, plus profondément occupé à une table de jeu, le raisonnable époux généralise-t-il ses idées, tandis qu'il risque sa fortune sur une carte, et laisse tous les petits détails de l'éducation à sa compagne, ou au hasard? mais en accordant que la femme doive être belle, naïve et innocente, pour que ses qualités la rendent une compagne plus remplie d'attrait, et surtout d'indulgence, à quoi lui fait-on sacrifier ses qualités intellectuelles? Où est la nécessité de tous ces préparatifs qui ne serviront, suivant le calcul même de Rousseau, qu'à en faire, pour très peu de temps, la maîtresse de son mari? Car personne n'a jamais autant insisté que lui sur la nature passagère de l'amour. Voici comment en parle ce philosophe. La félicité des sens est passagère, l'état habituel du cœur y perd toujours l'imagination qui perd ce qu'on désire, l'abandonne dans la possession. Or, le seul être existant par lui-même, il n'y a rien de beau que ce qui n'est pas. Mais il revient encore à ces paradoxes inintelligibles lorsqu'il s'adresse ainsi à Sophie. En devenant votre époux, Émile est devenu votre chef. C'est à vous d'obéir, ainsi l'a voulu la nature. Quand la femme ressemble à Sophie, il est pourtant bon que l'homme soit conduit par elle. C'est encore une loi de la nature. Et c'est pour vous rendre autant d'autorité sur son cœur que son sexe lui en donne sur votre personne que je vous ai fait l'arbitre de ses plaisirs. Il vous en coûtera des privations pénibles, mais vous régnerez sur lui si vous savez régner sur vous. Et ce qui s'est déjà passé me montre que cet art difficile n'est pas au-dessus de votre courage. Vous régnerez longtemps par l'amour, si vous rendez vos faveurs rares et précieuses, si vous savez les faire valoir. Voulez-vous voir votre mari continuellement à vos pieds? Tenez-le toujours à quelque distance de votre personne. Mais dans votre sévérité, mettez de la modestie et non du caprice. Qu'il vous voie réservé et non pas fantasque. Gardez qu'en ménageant son amour, vous ne le fassiez douter du vôtre. Faites-vous chérir par vos faveurs et respecter par vos refus. Qu'il honore la chasteté de sa femme sans avoir à se plaindre de sa froideur. C'est ainsi, mon enfant, qu'il vous donnera sa confiance, qu'il écoutera votre avis, qu'il vous consultera dans ses affaires et ne résoudra rien sans en délibérer avec vous. C'est ainsi que vous pouvez le rappeler à la sagesse quand il s'égare. Le ramener par une douce persuasion, vous rendre aimable pour vous rendre utile, employer la coquetterie aux intérêts de la vertu et l'amour au profit de la raison. Je terminerai mes extraits par la peinture fidèle d'un couple heureux. Ne croyez pas, avec tout cela, que cet art même puisse vous servir toujours. Quelques précautions qu'on puisse prendre, la jouissance use les plaisirs, et l'amour avant tous les autres. Mais l'amour a duré longtemps, une douce habitude en remplit le vide, et l'attrait de la confiance succède au transport de la passion. Les enfants forment entre ceux qui leur ont donné l'être une liaison non moins douce et souvent plus forte que l'amour même. Quand vous cesserez d'être la maîtresse d'Émile, vous serez la mère de ses enfants. Alors, au lieu de votre première réserve, établissez entre vous la plus grande intimité. Plus de lits à part, plus de refus, plus de caprices. Devenez tellement sa moitié qu'il ne puisse plus se passer de vous, et que sitôt qu'il vous quitte, il se sente loin de lui-même. Vous qui fîtes si bien régner les charmes de la vie domestique dans la maison paternelle, faites-les régner ainsi dans la vôtre. Tout homme qui se plaît dans sa maison aime sa femme. Souvenez-vous que si votre époux vit heureux chez lui, vous serez une femme heureuse. Rousseau, Émile. Il observe avec raison que les enfants forment un lien beaucoup plus durable entre les époux que l'amour. Il avoue qu'après 6 mois passés ensemble, la beauté n'a plus de prix, et même qu'on n'y songe plus. Assurément, les grâces artificielles et la coquetterie perdront aussi leur effet sur les sens. Pourquoi donc veut-il qu'on élève une jeune personne destinée au mariage comme si on la préparait pour un sérail? J'en appelle à cette heure des rêveries de l'imagination et des raffinements de la volupté, au bon sens du genre humain. Et je demande si l'objet de l'éducation devant être de rendre les femmes des épouses chastes et des mères tendres, la méthode recommandée dans l'esquisse précédente est en effet la plus sûre pour arriver à ce but. Osera-t-on soutenir que le meilleur moyen de rendre une femme chaste est de l'instruire à pratiquer les ruses malhonnêtes d'une maîtresse, revêtue du nom de coquetterie vertueuse par des hommes de plaisir, blasé sur les attraits naïfs de la sincérité, ou sur le sentiment du bonheur qui naît de l'intimité la plus tendre, quand le soupçon n'altère point la confiance et qu'une volupté pure et chaste y prête encore de nouveaux charmes. L'homme, qui peut se contenter de vivre avec une aimable et utile compagne, dépourvue d'intelligence, si toutefois cette supposition est faisable, a donc perdu, dans les plaisirs des sens, le goût de jouissances plus délicieuses. Il n'a donc jamais éprouvé cette satisfaction tranquille qui rafraîchit le cœur desséché, comme la douce rosée du ciel humecte les prairies. Cette satisfaction d'être aimé par un cœur qui puisse l'entendre. Il est toujours seul dans la société de sa femme, à moins qu'en lui, l'homme ne se confonde avec la brute. Le charme de la vie, dit un profond raisonneur, est la sympathie. Rien ne nous fait plus de plaisir que de trouver dans les autres hommes une harmonie de sentiments correspondant à ce qu'éprouve notre propre cœur. Cependant, à s'en rapporter au raisonnement que nous venons d'exposer et qui écarte les femmes de l'arbre de la science, il faudrait sacrifier les importantes années de la jeunesse, les fruits de l'âge mûr et les espérances raisonnables de l'avenir, au grand et magnifique projet de rendre les femmes l'objet du désir des hommes, et encore pour un temps assez court. D'ailleurs, comment Rousseau peut-il se promettre de les voir vertueuses et constantes, puisqu'il n'établit pas leur vertu sur la base solide de la raison et ne fixe point les recherches de leur esprit sur la vérité? Mais toutes les erreurs de Rousseau prirent leur source dans sa sensibilité, et les femmes sont toujours prêtes à pardonner à ceux à qui leurs charmes ont tourné la tête. Il se passionna, quand il aurait dû ne tenir que le froid langage de la raison, et la réflexion enflamma son imagination au lieu d'éclairer son jugement. Ses qualités mêmes contribuèrent à l'égarer. Car la nature qu'il avait douée d'une constitution ardente et d'une imagination vive l'entraîna vers l'autre sexe d'un mouvement si rapide qu'il devint bientôt lascif. S'il avait ménagé quelques jours à l'évaporation de ses désirs, son feu se fût éteint de lui-même d'une manière toute naturelle. Mais la vertu et une sorte de délicatesse romanesque la lui interdirent. Cependant, tandis que la crainte, la délicatesse ou la vertu le tenaient dans la réserve, il débaucha son imagination et, appuyant ensuite par la réflexion sur des mouvements auxquels ses rêveries donnaient plus de force, il les peignit avec les couleurs les plus vives et s'en fit une image ineffaçable. Alors il chercha la solitude, non pour y dormir du sommeil de l'homme de la nature ou pour scruter en paix les causes des choses, sous ces ombrages silencieux où l'immortel Newton méditait le système de l'univers, mais uniquement pour s'abandonner à ses sensations. Et il a si fortement tracé ce qu'il sentait fortement qu'intéressant le cœur et enflammant l'imagination de ses lecteurs en proportion de ce que leur imagination est susceptible, il croit leur esprit convaincu, tandis qu'il n'y a que leur âme qui sympathise avec l'écrivain poétique dont le talent peint de main de maître les objets des sens auxquels une ombre voluptueuse ou un voile jeté avec grâce prête encore plus de charme. C'est ainsi que nous faisons sentir que nous raisonnons, tandis qu'en effet nous ne faisons que rêver, il nous force à tirer de fausses conséquences. Pourquoi la vie de Rousseau fut-elle partagée entre l'extase et le sentiment du malheur? On ne peut résoudre ce problème qu'en attribuant ces deux manières d'être si opposées à l'effervescence de la même imagination. Qu'il eût pu parvenir à la calmer, vraisemblablement il aurait acquis plus de force d'âme. Si le but de la vie doit être de former la partie intellectuelle de l'homme, sans doute il arriva au plus haut point. Cependant, en supposant que la mort ne nous conduise pas à une scène plus noble, il est probable qu'il eût joui d'un bonheur plus égal sur la terre et éprouvé les tranquilles sensations de l'homme de la nature, au lieu de se préparer pour une autre existence en nourrissant les passions qui agitent l'homme civilisé. Mais paix à ses mânes. Quoique je heurte ses opinions, je ne veux pas troubler les cendres toujours sacrées de l'homme de génie. Je n'attaque que cette sensibilité excessive qui lui fit dégrader mon sexe en faisant l'esclave de l'amour. Servage maudit où nous sommes fiers de voir les hommes qui nous adore jusqu'à ce que les feux dont ils brûlaient s'éteignant, nous devenions les esclaves de ceux qui naguère étaient à nos pieds. Dryden. On ne saurait trop insister sur la tendance pernicieuse de ces livres, où des écrivains rabaissent insidieusement les femmes, tout en paraissant se prosterner devant leur charme. Oh, mes contemporaines, sortez de ce cercle étroit de préjugés. Osez vous élever au-dessus. Si la sagesse est désirable pour elle-même, si la vertu, pour mériter ce nom, doit être fondée sur la connaissance de ses devoirs, fortifions nos âmes par la réflexion jusqu'à ce que nos têtes moins légères soient en équilibre avec nos cœurs. Ne bornons pas toutes nos pensées aux petits intérêts du jour et nos connaissances à nous familiariser avec le cœur de nos amants ou de nos époux. Subordonnons la pratique de chaque devoir à celle du plus grand de tous, de perfectionner nos âmes et de préparer nos affections pour un ordre de choses plus élevé. Prenez donc garde, mes amis, de laisser toucher vos cœurs par les incidents plus ordinaires. Le zéphyr ébranle un roseau qui meurt tous les ans, tandis que le chêne brave pendant une longue suite de siècles l'effort de la tempête. Si nous n'étions en effet créés que pour voltiger une heure et disparaître, certes nous ferions bien alors de nous livrer à notre sensibilité et de repousser en riant la sévère raison. Cependant, hélas, même alors, il nous faudrait la force du corps et l'énergie de l'âme, autrement nous serions condamnés à évaporer notre vie dans des accès de plaisir ou à la traîner dans la langueur. Mais le système d'éducation que je voudrais voir rejeté semble présupposer ce qu'on ne devrait jamais regarder comme admis, que la vertu nous mette à l'abri des accidents de cette vie et que la fortune, quittant son bandeau, ne manquera pas de sourire à une femme bien élevée et de lui faire trouver sous la main un Émile ou un Télémaque. Le contraire n'est pourtant pas trop vrai. Tout le monde sait que la récompense que la vertu promet à ses sectateurs est renfermée dans leur sein. Qu'ils ont souvent à lutter contre les plus cruelles inquiétudes, les besoins de la vie, et à supporter les vices et les humeurs de parents ou de connaissances pour lesquels ils ne peuvent jamais sentir de l'amitié. Il a existé beaucoup de femmes qui, au lieu de voir leurs défauts endurés par la raison et la vertu de leurs pères et de leurs frères, ont fortifié leurs âmes par une lutte continuelle contre les vices et les folies de ces messieurs. Cependant, elles n'ont jamais eu le bonheur de trouver un héros dans la personne d'un mari qui, leur payant la dette contractée envers elles par le genre humain, eut l'honneur et le droit de rabaisser leur raison à sa dépendance naturelle et de restituer à l'homme la prérogative usurpée qui les faisait s'élever au-dessus de lui. Section 2. Les sermons du docteur Fordyce font partie depuis longtemps de la bibliothèque d'une jeune personne. Bien plus, on en permet la lecture dans les pensions de jeunes demoiselles. Je ne manquerai pourtant pas de les ôter de ma pupille, pour peu que je voulusse fortifier son intelligence et la mettre en état de se former des principes solides établis sur une base convenable, ou seulement que je fusse jalouse de cultiver son goût. C'est mon dernier mot sur ce livre, quoiqu'il contienne beaucoup de bonnes choses. Le docteur Fordyce a pu avoir un but très louable, mais ses discours sont écrits d'un style si affecté et que je n'aurai rien à objecter contre ses préceptes mielleux, je ne permettrai pas aux jeunes filles de les lire, à moins que je n'eusse formé le sot projet d'étouffer dans leur cœur, jusqu'à la moindre étincelle de la nature, pour fondre toutes les belles qualités humaines en une douceur féminine et une prétendue grâce factice. Je dis factice, car la vraie grâce naît de la liberté de l'esprit dont elle suppose l'indépendance. Les enfants, sans s'inquiéter de plaire et ne songeant qu'à s'amuser eux-mêmes, sont souvent remplis de grâce. La noblesse qui a passé la plus grande partie de sa vie avec des inférieurs et s'est toujours trouvée avoir de l'argent à sa disposition acquiert une aisance gracieuse dans le maintien qu'il faut plutôt nommer une grâce habituelle du corps que cette liberté noble et élégante où l'on trouve la véritable expression de l'âme. Cette grâce mentale, invisible aux yeux du vulgaire, perce souvent à travers une sorte de rudesse et, éclairant tous les traits, montre la simplicité candide et la noble indépendance de l'âme. C'est alors que nous lisons dans les yeux des caractères d'immortalité, et que nous voyons l'âme dans le moindre mouvement, quoique, lorsqu'une personne est en repos, ni le visage ni les membres ne puissent offrir une beauté qui les rende recommandables, ou le maintien rien de particulier pour attirer l'attention. Je sais que le grand nombre est pour la beauté plus facile à saisir. Cependant, en général, on admire la simplicité sans songer à ce que l'on admire. Et peut-elle exister, cette simplicité touchante, si l'on en exclut la sincérité? Mais finissons des remarques qui sentent la digression, quoiqu'elles naissent naturellement du sujet. Le docteur Fordyce délaye l'éloquence de Rousseau dans ses périodes déclamatoires, et, nous fatiguant d'un jargon sentimental, nous dit minutieusement son avis sur le caractère des femmes et sur l'extérieur qu'elles doivent afficher pour se rendre aimables. Mais laissons-le parler lui-même, car c'est le docteur, et non la nature, qu'on voit dans le discours qu'il lui fait adresser à l'homme. Contemplez ces douces et innocentes créatures que j'ai embellies de mes dons les plus précieux et confiées à votre protection. Regardez-les avec amour et respect. Traitez-les avec affection et honneur. Elles sont timides et ont besoin d'être défendues. Elles sont fragiles. Oh, n'abusez pas de leur faiblesse. Que leur crainte, leur rougeur modeste, vous les rendent encore plus chères. Qu'elles ne se repentent jamais d'avoir mis en vous leur confiance. Mais est-il possible qu'un seul de vous soit assez cruel, assez monstrueusement dépravé pour la trahir? Pouvez-vous bien trouver dans vos cœurs la force barbare de dépouiller de leurs trésors d'aimables et confiantes créatures, ou de leur enlever la robe sans tache de l'innocence? Maudit soit l'impie dont la main ose attenter à la chasteté. Arrête, misérable, crains de provoquer les plus sévères vengeances du ciel. Je ne m'amuserai pas à commenter sérieusement ce passage. J'en pourrais produire plusieurs de la même nature, et quelques-uns d'un style si sentimental que j'ai entendu des hommes raisonnables les caractériser d'indécents et m'en parler avec dégoût. Le docteur Fordyce a déployé dans tout le cours de son ouvrage cette chaleur factice et par conséquent froide. Il a partout fait parade de cette sensibilité qu'il faut apprendre de bonne heure aux jeunes gens de l'un et l'autre sexe à mépriser comme la marque sûre d'une âme petite et vaine. Des fleurs de rhétorique, des exclamations adressées au ciel, aux beautés innocentes, les plus belles images du ciel ici-bas, voilà ce qu'on trouve. Quant au bon sens, l'auteur l'a complètement oublié. Ce n'est pas là le langage du cœur qu'il n'atteindra jamais. Il est tout au plus bon à chatouiller l'oreille. On m'objectera peut-être que le public a goûté cet ouvrage. Belle raison, ne lit-on pas aussi les méditations d'Hervé, qui n'a pas plus respecté le goût, ni le bon sens? Je m'élève surtout contre ces phrases d'amoureux transis, expressions forcées de sentiments qui ne le sont pas moins, qu'on trouve à chaque instant dans ces instructions pour les jeunes personnes. Si l'on permet aux femmes de marcher sans lisière, pourquoi les cajoler en faveur de la vertu, par une adulation pleine d'artifices et des compliments pareils à ceux qu'on emploierait pour les séduire? Parle-leur le langage de la vérité et du bon sens, et loin d'ici tout cet apprêt et ces mignardises. Enseignez-leur à se respecter elles-mêmes, en qualité de créatures raisonnables, et ne les conduisez pas à s'éprendre d'une belle passion pour leur insipide personne. Je sens bouillir ma bile à l'aspect d'un prêcheur qui s'occupe de mantelets ou de broderies, et bien plus encore de l'entendre s'adresser aux belles anglaises, les plus belles des belles, comme s'il n'y avait qu'elles d'aimables. Il se sert même du raisonnement suivant pour recommander la piété. Peut-être rien ne frappera-t-il plus profondément une belle femme que cette considération, que quand elle est recueillie pieusement et tout à fait livrée au sujet de méditation le plus important, elle prend, sans s'en douter, un air de dignité supérieure et de nouvelle grâce, de sorte que l'éclat de la sainteté semble rayonner autour d'elle et que les spectateurs sont tentés de la croire déjà au milieu des cœurs des anges dont elle semble partager la nature. Pourquoi élever les femmes à ses désirs, à ses projets de conquête? Toute épithète employée en ce sens me fait tressaillir d'une manière désagréable. Et quoi? La religion et la vertu n'ont-elles pas plus de puissants motifs, de récompenses plus touchantes? Faut-il toujours avilir les femmes en les faisant agir en vue de l'homme? Ne saurait-on les instruire qu'à plaire, et lorsqu'elles dirigent leurs traits contre le cœur de l'homme, est-il nécessaire de leur dire qu'un peu de bon sens suffit pour rendre leur attention incroyablement touchante? Comme un petit degré d'instruction fait le plus grand plaisir, quand on le trouve dans une femme. De même, quoique par une raison différente, la plus légère expression de bonté de sa part nous paraît délicieuse, surtout si cette femme est belle. N'en déplaise à l'auteur, j'aurais continué de supposer que c'était par la même raison. À quoi bon dire aux jeunes filles qu'elles ressemblent à des anges, si ce n'est pour en faire moins que des femmes, ou pour exprimer qu'une jolie et innocente personne est l'objet qui approche, plus que tout autre, de l'idée que nous nous sommes formés des anges. Cependant, on a grand soin de leur dire en même temps qu'elles ne ressemblent aux anges que tant qu'elles sont jeunes et belles. La conséquence naturelle, c'est que ce sont leurs charmes, et non leurs vertus, qui leur procurent cet hommage. Mot vide de sens. À quoi peut conduire une adulation si fausse, sinon à la vanité et à la folie? On sait qu'un amant a la licence poétique d'exalter sa maîtresse. Son jugement ne sert plus que de microscope à sa passion, et quand il emprunte le langage de l'adoration, il ne dit pourtant pas une fausseté. Son imagination peut élever au-dessus de l'humanité l'idole de son cœur sans qu'on lui en fasse un crime. Et il serait heureux pour les femmes de n'être flattées que par des hommes qui les aimassent réellement. Je parle de ceux qui aiment la personne et non le sexe. Mais un grave prédicateur est-il excusable de laisser de pareilles folies dans des discours sérieux destinés à former le cœur? Dans les sermons ou les romans, le ton voluptueux est toujours fidèle à son texte. Les moralistes permettent aux hommes de cultiver différentes qualités, suivant la direction de la nature, et de prendre les différents caractères que les mêmes passions modifiées presque à l'infini donnent à chaque individu. Un homme vertueux peut être d'un tempérament bilieux ou sanguin. Qu'il soit gai ou grave, personne ne le trouvera mauvais. Il peut être ferme, presque jusqu'à s'en rendre insupportable, ou lâchement soumis, et n'avoir ni volonté ni opinion qui lui appartiennent en propre. Mais on veut que toutes les femmes soient nivelées, par la douceur et la docilité, au même caractère de mansuétude et de faiblesse, toujours prête à céder complaisamment. Au reste, je vais me servir des propres paroles du prêcheur. Observez que dans votre sexe, les exercices virils n'ont jamais de grâce, qu'un ton, une figure, un air et un maintien trop mâle sont toujours repoussants, et que les hommes d'une sensibilité délicate s'accordent à désirer dans les femmes des traits doux, une voix moelleuse, une forme qui n'annonce rien de robuste et un port délicat et aimable. Le portrait suivant n'est-il pas celui d'une esclave destinée au service de l'intérieur? Je suis étonné de la folie de plusieurs femmes qui reprochent toujours à leur mari de les laisser seules, de préférer telle ou telle compagnie à la leur, de les traiter avec telle ou telle marque de mépris ou d'indifférence. Quant à dire la vérité, elles y ont donné lieu les premières, et méritent en grande partie le premier blâme. Non que je veuille justifier aucune injustice de la part des hommes envers les femmes. Mais vous êtes-vous conduite à l'égard de vos maris avec une circonspection plus respectueuse et une tendresse plus égale, en étudiant leurs humeurs, en ayant l'indulgence de ne pas vous apercevoir de leur méprise, en vous soumettant à leurs opinions dans des sujets indifférents, en excusant de petites inégalités de fantaisie ou d'humeur, en faisant de douces réponses à des questions brusques, en vous plaignant aussi rarement que possible, en regardant comme votre soin de tous les jours de soulager leurs inquiétudes et de prévenir leurs vœux, d'égayer l'heure de l'ennui et de ramener les idées de félicité. Si vous aviez suivi cette conduite, je ne doute pas que vous n'eussiez maintenu et même augmenté leur estime jusqu'au point de vous assurer tout le degré d'influence qui eût pu servir à leur vertu ou à votre mutuelle satisfaction. Alors votre maison aurait pu être le séjour du bonheur domestique. Et moi je dis qu'une pareille femme est un ange ou une pécore, car je ne discerne pas la plus légère trace de caractère humain, de raison ou de passion dans cette femme de labeur, dont l'existence de son tyran absorbe la sienne. D'ailleurs, il faut que le docteur Fordyce ait bien peu connu le cœur humain s'il a réellement supposé qu'une telle conduite pût ramener l'amour prêt à s'enfuir au lieu d'exciter le mépris. Non, la beauté, l'amabilité, etc., etc., peuvent gagner un cœur, mais l'estime, le seul sentiment durable, ne saurait être obtenu que par la vertu appuyée de la raison. C'est le respect pour les qualités intellectuelles qui soutient la tendresse pour la personne. Ces ouvrages se trouvant si fréquemment dans les mains de jeunes personnes de mon sexe, je m'en suis plus occupé qu'ils ne le méritent, à parler strictement. Mais comme ils ont contribué à gâter le goût et à énerver les facultés intellectuelles de plusieurs femmes, je ne pouvais me dispenser d'en faire la critique.